19h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. Curieusement, les découvertes préhistoriques s'accélèrent en ce mois de septembre-octobre. Dénisoviens, mais surtout néandertaliens, font la une de l'actualité scientifique. Pour preuve, aujourd'hui, nous évoquons une exceptionnelle découverte néandertalienne réalisée par un groupe de chercheurs français dirigé par Dominique Cliquet. Dominique Cliquet est tout sauf un inconnu pour moi. C'est ensemble que nous avons fait nos universités et j'ai même gratouillé sur un de ces sites paléolithiques au sommet du Cotentin, Saint-Germain-des-Vaux, en 1981. 40 ans plus tard, l'obstiné est devenu l'incontournable spécialiste de la préhistoire du nord-ouest de la France. On connaît l'adage, on ne trouve que ce que l'on cherche, cela tombe bien. Celui-ci a une invraisemblable imagination et est prêt à chercher dans d'improbables situations. J'ai souvenir de ses fouilles sur les plages anglo-normandes, ouvertes à marée basse, comblées à marée haute. Pour autant, qui pouvait croire qu'il allait trouver d'exceptionnels pas néandertaliens inscrits dans les sables normands ? Dominique Cliquet, bonsoir.
Bonsoir.
Nous en avions parlé dès 2016, mais désormais, vos derniers résultats viennent d'être publiés dans les prestigieux comptes rendus de l'Académie des sciences américaines et font le tour du monde. Si vous êtes conservateur à la Drague de Normandie, un jeune thésard vous accompagne, Jérémy Duvaux, bonsoir.
Bonsoir.
J'ai appris que votre soutenance de thèse approchait, un doctorat réalisé dans le cadre de l'UMR 71-94 du CNRS et du Muséum National d'Histoire Naturelle. 257 pas, vieux de 80 000 ans. On parle d'un nombre record pour un site préhistorique français. Dominique Cliquet.
Effectivement, nous avons eu la chance de tomber sur ce site qui était connu déjà par des découvertes anciennes liées à l'érosion littorale. La grande surprise a été de mettre au jour, quand nous avons retravaillé sur le site, dans les années 2012, à partir des années 2012, du fait de l'érosion qui détruisait ces niveaux archéologiques qu'on savait riches d'enseignements pour la conservation des structures et des vestiges fauniques, ce qui est rare dans le massif armoricain, généralement ils ne sont pas conservés. Nous avons eu la surprise en 2012, sur des sols relativement bien conservés, de mettre au jour des empreintes de pas, une, puis deux, puis 5 empreintes dans la même journée. Au début, on s'est un petit peu interrogé, savoir si c'était pas une vision de l'esprit, et force a été de constater.
Et si c'était pas les vôtres,
hein. Le site étant un petit peu dangereux pour circuler pieds nus, nous avons évolué avec des chaussures, et de ce fait, ça pouvait pas être nos empreintes, et a fortiori, il y avait des empreintes de petits, et il n'y avait que des adultes sur le site.
Alors c'est un site exceptionnel, le Rosel. C'est un site exceptionnel, notamment parce que on y a découvert aussi un morse qui n'avait absolument rien à faire là.
Alors c'est un site exceptionnel à plusieurs titres, et notamment avec ce fragment de morse qui a été consommé par les préhistoriques, qui a été mis au jour lors des investigations conduites dans les années 1970. Bon, pour l'instant, nous ne sommes pas encore arrivés sur ces niveaux d'occupation qui ont été préalablement analysés, mais en principe, durant la campagne prochaine, puisque nous refaisons 3 mois de fouilles en principe l'été prochain, nous devrions travailler sur ces niveaux et on l'espère mettre au jour d'autres fragments de cet animal qui est arrivé à la dérive, hein, tout simplement.
Il provient du Groenland.
Vraisemblablement. Alors ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant parce que systématiquement, quand on a dit découverte de mort, sitôt, on a lié ça à une pulsion très froide du climat. Bon, il s'avère que les autres indicateurs nous montrent que nous sommes dans un climat tempéré frais, mais pas un climat très rigoureux. En fait, c'est un animal qui a dérivé, comme on peut encore le voir fréquemment. On a eu notamment comme ça un morse qui est arrivé sur les côtes atlantiques en 1986. Sauf erreur de ma part, on n'était pas dans une ère glaciaire en 1986.
Comment se présente ce site du Rozel ? Où est-il d'ailleurs ?
Alors ce site, il a eu la chance d'être inscrit dans une ancienne crique d'une falaise qui s'est creusée dans un grand massif de schiste ancien, puisque c'est un schiste cambrien, donc très ancien, très fissuré, qui a favorisé la création de cette crique. Et cette crique a permis l'accumulation de sable apporté par le vent durant le début de la dernière glaciation, sur une puissance assez considérable, puisque le massif du Nerf mesure à peu près 23 mètres de haut, bilan qui fait quelques centimètres à quelques décimètres sur les autres espaces armoricains où nous avons des niveaux archéologiques conservés.
Vous êtes un spécialiste des falaises, vous aviez déjà fouillé un site, celui de Saint-Germain-des-Vaux, dans ces conditions-là, une sorte de falaise. Vous avez été obligé de détruire une partie donc de la coupe pour obtenir un petit peu de mètre carré en bas.
Oui, ça c'est un petit peu la légende aussi. Bon, il est vrai que j'ai eu plusieurs fois l'occasion de travailler sur le littoral et de ce fait être obligé d'enlever les niveaux sous-jacents au niveau archéologique. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles Cyril Marcini, qui est un de vos collègues et qui
est habitué de l'émission,
m'appelait Gruyermann, et depuis cette excavation faite au Rozel, il m'appelle Cratermann. Bon, je ne sais pas si on doit en tirer quelques leçons.
Jérémy Duvaux, 257 pas, mais visiblement en faisant quelques recherches, j'ai vu qu'il y en avait 1500.
Alors oui, il faut faire la différence entre les traces que l'on découvre tous les ans sur le site, et celles qu'on va analyser en laboratoire. D'une part, les 257 empreintes de pied que nous avons publiées cette semaine sont des empreintes qui ont été trouvées entre 2012 et 2017. Donc nous n'avons pas encore publié sur les empreintes 2018 et 2019 qui sont en cours d'étude.
Et là, vous en aviez combien ?
Alors là, on en a plusieurs centaines, près de 800 traces entre 2018 et 2019. Et donc, d'une part, il faut faire la différence par rapport à ces années de fouilles, et également faire une différence entre les traces qui sont découvertes sur le terrain et celles que l'on va conserver et analyser en laboratoire. En réalité, on est obligé de sélectionner les traces qui sont les plus consensuelles, c'est-à-dire les traces qui vont montrer les plus de caractères identifiables. On va pouvoir se dire, très bien, nous avons affaire à une empreinte de pied ou à une empreinte de main, par exemple.
Dominique Cliquet, comment ces pas ont-ils été miraculeusement préservés ?
Alors il faut reconnaître que ce site c'est un petit miracle archéologique dans la mesure où nous avons eu une succession de coulées de boue ou de pédogenèse, donc des formations de sol, de dunes, qui se sont trouvées intercalées avec des apports de sable éolien, ce qui fait que nous avons en fait la constitution d'une sorte de millefeuille avec superposition des niveaux de sol anthropisés, c'est-à-dire des sols qui ont été occupés par les préhistoriques aux alentours, pour la fourchette sur laquelle nous avons travaillé, aux alentours de 80 000 ans. Ce qu'on n'arrive pas à appréhender, c'est le laps de temps qui peut s'écouler entre entre deux occupations. Ça, c'est assez frustrant, malheureusement. Ce serait intéressant de savoir si c'est le même groupe qui revient. On sait qu'ils reviennent systématiquement à peu près à la même période comme tous ces itinérants. On sait qu'ils reviennent fin automne, hiver, début printemps. On sait aussi qu'ils chassent systématiquement les mêmes espèces à peu près dans les mêmes proportions. Ils fabriquent à peu près le même outillage pour les trois niveaux supérieurs, quelque chose d'un petit peu différent pour les deux niveaux sous-jacents qui sont encore en cours d'investigation. En fait, ce site a été conservé du fait qu'il a été vraiment piégé dans cette crique, sachant que d'autres sites devaient avoir la même configuration en périphérie et ont été détruits par la transgression holocène, donc la remontée du niveau marin depuis notre interglaciaire.
Jérémy Duvaux, connaissait-on déjà des pas néandertaliens ?
Alors on en connaissait, mais ils étaient extrêmement rares. On en connaissait en tout 9 empreintes, voire 8, puisqu'il y a une inconnue sur la dernière, qui était répartie sur 4 sites. Donc c'était extrêmement rare, et la découverte que nous avons fait sur le site du Rozel, c'est absolument un record en termes de nombre d'empreintes associées aux néandertaliens, ce qui nous a notamment permis de préciser les études que nous avons fait, notamment sur la taille et la composition des groupes qui ont vécu sur le site du Rosal.
98% du corpus, c'est ça?
Oui, à peu près.
Alors, ce ne sont bien sûr pas les seuls, des traces dans la boue, des traces dans la sande, des traces très vieilles, bien antérieures aux Néandertaliens, ont été déjà découvertes, notamment en Afrique de l'Est, en Italie.
Oui, tout à fait. Alors, l'un des sites les plus célèbres ayant révélé les empreintes, c'est le site de l'Aétolie. Donc là, on a des empreintes qui sont vieilles de plus de 3,6 millions d'années, donc c'est très très ancien, beaucoup plus vieux que celles que nous avons trouvées au Rosal. Ces empreintes-là sont associées à une espèce d'Australopithèque qui est la même espèce que la célèbre Lucie. Et donc là, on est quand même sur des configurations notamment temporelles différentes, mais également sur des configurations d'individus également différentes, puisque ces sites-là, notamment à l'Aétolie, est un site probablement de passage, puisqu'on peut suivre des pistes, c'est-à-dire une succession d'empreintes des individus. On peut suivre ces individus, c'est comme un site de passage, si vous voulez. Alors qu'au Rosal, on est dans un contexte totalement différent, puisque c'est un contexte d'occupation, où là, on a un groupe qui vivait directement sur le site.
Peut-on définir les âges de vos individus?
Alors oui, on a été capable de définir, ou du moins d'estimer les âges de nos individus. Alors d'une part, on a essayé d'estimer la taille de ces individus à partir de la longueur des empreintes. Donc cette estimation de la taille est assez fiable puisqu'elle se base sur les relations entre la longueur du pied et la taille de l'individu. Grosso modo, la longueur de votre pied, c'est à peu près 15% de votre taille. Et on a ajouté à cela la connaissance que nous avons des conditions de dépôt au Rosal. C'est-à-dire que nous avons réalisé des études expérimentales où on a fait participer une vingtaine d'individus. Donc on a des très jeunes individus, notamment le petit-fils de Dominique qui avait alors un an, et des adultes, de façon à avoir une idée de la déformation, entre guillemets, du sédiment par rapport à la longueur du pied. On a pu observer que la longueur de l'empreinte pouvait être inférieure, mais aussi supérieure à la longueur du pied. Et en connaissant le rapport entre la longueur de l'empreinte et la longueur du pied, on était capable de définir une relation entre la longueur de l'empreinte et la stature, de façon à estimer les statures, puis ensuite les âges.
Le plus petit ferait 66 cm.
Alors l'empreinte la plus petite, effectivement, correspond à une taille de 66 cm. Après, il faut également prendre en compte ce qu'on appelle l'écart intra-individuel, c'est-à-dire qu'un même individu va pouvoir produire des empreintes de différentes dimensions. Donc, en réalité, on a pris également en compte cet écart et on sait que les plus petits individus pouvaient probablement faire entre 70 et 90 cm, donc c'est relativement jeune. Donc, on avait probablement ici un individu qui était de l'âge entre 1 et 4 ans.
Le plus grand ferait 1m89, c'est bien
ouais,
ça?
Exactement. La plus grande empreinte, la plus longue en tout cas, correspond à une taille d'1m89. Et là encore, on a été capable d'introduire cet effet de l'écart intra-individuel. On a pu estimer que cette plus grande empreinte aurait pu être produite également par un individu qui faisait au minimum 1m75. Alors 1m75, c'est quand même très grand pour des Néandertaliens, puisqu'ils étaient en moyenne plus petits que notre espèce, Homo sapiens. Donc on a quand même une variation de taille dans ces empreintes qui est vraiment très importante.
Ça fait quoi en pointure, 1m89?
Alors 1m89, on est plutôt sur du 46-47 à peu près.
1m89, Dominique Cliquet, est-ce que l'on peut y voir le mâle dominant du groupe?
Ah, ça c'est une question un peu piège.
Le gorille alpha, comme on dit.
Oui, de toute façon, ce qu'on peut affirmer, c'est que nous avons un groupe constitué d'adultes, d'adolescents et d'enfants, voire de tout petits, sur un espace qui est en lien direct avec l'acquisition de viande, de matières premières carnées. Et surtout, ce qu'apporte le site, c'est le fait d'avoir l'ensemble du groupe qui participe à ces activités d'acquisition de viande, ce qui va un petit peu à l'encontre de certains schémas classiques où on nous présente le camp de base où restent les anciens, femmes et enfants, et ce camp de base est alimenté en matières premières diverses, que ce soit le bois, la pierre pour pouvoir constituer l'outillage, et bien sûr la nourriture essentiellement carnée pour ces populations, où on avait toujours tendance à attribuer ces activités de chasse et d'acquisition de viande aux hommes et aux adolescents. Là, on se rend compte que, bon, évidemment, ce ne sont pas les enfants qui vont à la chasse, mais ils sont en périphérie de ces aires d'activité technique, en lien direct avec la découpe des animaux qui sont rapportés soit entiers, soit en quartier sur le site, et le traitement de cette viande, par cuisson, donc cuisson directe ou cuisson indirecte, vraisemblablement la technique de la pierrade. Nous sommes en train de travailler sur ces thématiques.
Vous avez des sortes de grandes dalles de schiste, c'est ça, hein ?
Exactement. Nous avons à proximité des foyers des dalles de schiste qui sont très fragmentées, alors qu'à l'écart des foyers, les dalles de schiste qui ont été rapportées par les préhistoriques sont restées entières. On s'est rendu compte par expérimentation que les dalles de schiste utilisées et qu'on avait mis sur des braises se fragmentaient beaucoup plus facilement que les dalles qui n'avaient pas été affectées par le feu. Donc nous sommes en train d'essayer de voir si ce constat est valide. Et puis nous avons aussi essayé de gratter la partie supérieure de ces dalles, voir si nous avions, comme dans les remplissages de foyers, des acides organiques conservés, puisque nous les avons conservés dans les cendres des foyers.
France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier.
Dominique Cliquet, ce qui est très important, c'est que dans votre groupe, vous avez une majorité d'enfants et d'adolescents.
Oui, alors c'est un petit peu biaisé ce constat du fait que les zones les mieux conservées sont évidemment les secteurs à l'écart des aires d'activité technique, où on a pu observer des aires piétinées. On a fait plusieurs fois des photographies. Malheureusement, le piétinement est tel qu'on voit qu'on a des poinçonnements, mais à part quand les empreintes sont isolées, on n'a pas la possibilité de pouvoir faire une véritable étude de ces secteurs. Dans les parties liées justement à ces aires d'activité technique, on a quand même, Jérémy dira peut-être, ou confirmera ou infirmera la chose. Moi, ce que j'ai pu observer, c'est qu'on avait essentiellement des pas d'adultes, des pas d'adolescents, moins de pas de petits. Par contre, dans les espaces périphériques, qu'on appelle entre nous sur le site la salle de jeu, hein, tout bêtement, ou la nurserie, on a effectivement deux espaces où on a une grande concentration d'empreintes d'adolescents et d'enfants.
Sur le site, effectivement, il y a certaines zones, comme disait Dominique, des zones de piétinement où parfois il est difficile d'analyser ces empreintes-là de façon très précise afin d'estimer la taille ou l'âge des individus. Mais on a quand même pu retrouver des empreintes majorité d'enfants et d'adolescents, une très très faible proportion d'empreintes d'adultes, mais on arrive quand même à retrouver des empreintes d'enfants et d'adolescents à côté de certaines structures d'occupation telles des foyers, et tout le jeu entre guillemets des futures recherches, ça va être de faire l'analyse entre les relations de la position des empreintes et la position du matériel archéologique qui est associé.
Est-ce que ces pas s'organisent ?
Alors ces pas s'organisent, c'est très difficile à savoir. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on a des piétinements très denses. Donc on arrive très mal, pour l'instant, du moins, à identifier des pistes, c'est-à-dire une succession d'empreintes les unes par rapport aux autres. On considère que les empreintes sont des empreintes qui sont isolées. On travaille sur des empreintes isolées. On a quelques rares pistes, c'est-à-dire on va suivre un même individu sur deux ou trois empreintes, mais pour la majorité d'entre elles, c'est très dur d'identifier de telles pistes.
On n'a pas, par exemple, la femme avec son enfant ?
Non. Pour l'instant, on ne l'a pas. Peut-être que dans les prochaines années, on la trouvera.
Alors, dans une grotte française, il y a une très jolie histoire, celle d'un enfant, visiblement, qui suivrait un renard et dont on arrive à voir le rythme.
Oui, alors, effectivement, on trouve dans plusieurs grottes plusieurs pistes qui permettent d'étudier le comportement et des instants de vie, entre quelque sorte, des occupants paléolithiques, notamment cette piste d'enfant qui suivrait un animal, comme vous avez dit.
Comment cela se détecte-t-il, un pas dans le sable ? D'ailleurs, Dominique Cliquet, vous les cherchiez ?
Non, je vais vous avouer que ça a été vraiment le fruit du hasard. Les premiers pas que nous avons trouvés, bon, comme les sols supérieurs sont vraiment très minces, très fragiles, ce sont des sols que nous avons fouillés avec des pinceaux fins. Et quand je dis des pinceaux fins, ce sont des pinceaux à maquillage. Donc on a difficilement la possibilité d'avoir quelque chose de plus fin pour pouvoir pratiquer ces dégagements. Il s'est avéré qu'en nettoyant ces portions de sol que le vent nous avait laissées en place, le vent ayant parfois déstructuré une partie de ces sols dès les périodes préhistoriques, avant de les recouvrir avec du sable, nous avons travailler vraiment très finement. Et c'est en nettoyant ces sols que nous nous sommes aperçus qu'il y avait des poinçonnements. Poinçonnements qui, dans un premier temps, nous ont un petit peu interpellés. Et les, les poinçonnements se sont avérés ressembler à des empreintes de pas, et on a notamment une empreinte qui présentait encore la marque des orteils, des doigts de pied. Donc là, le doute était plus possible. Et à partir de ce moment-là, notre œil s'est exercé à essayer de reconnaître ces poinçonnements. Et il est bien évident que nous sommes en 2019 beaucoup plus compétitifs que nous l'étions en 2012. Il est bien évident que si on avait à refouiller les niveaux supérieurs, il y a vraisemblablement des empreintes que nous n'avons pas vues, que nous verrions maintenant.
Vous avez des pas, mais vous avez aussi des mains.
Oui, alors ça c'est une première mondiale effectivement, puisque les empreintes de mains néandertaliens ne sont actuellement pas connues. Le recensement actuel avec, alors ça va mériter d'être validé, c'est ce que disait Jérémy tout à l'heure, on a fait l'acquisition de traces et empreintes, certaines sont fugaces, voire érodées dès la période ancienne, d'autres sont beaucoup plus évidentes. Là, on arrive à peu près à un corpus d'une trentaine de mains, ce qui est énorme.
Et des traces d'animaux, qui sont liées à la présence de l'homme ou pas du tout ?
Alors, les traces animales ont été trouvées soit dans des niveaux interstratifiés non anthropisés, soit
donc
sur,
en l'absence de l'homme,
soit sur des niveaux d'occupation où on a présence d'empreintes, mais rien ne dit qu'on ait synchronisme entre la présence du passage de l'homme et le passage des animaux. Il est possible que les animaux soient passés juste avant ou juste après.
Et c'est quoi comme animal ?
Alors là, le corpus est assez large. Bon, Jérémy a pas mal travaillé dessus. C'est d'ailleurs peut-être lui qui va pouvoir répondre à cette question.
Jérémy Dubot.
Alors, en termes de traces, on a plusieurs traces de carnivores. On a notamment une trace de loup et des traces de félidés. Alors ça, ces traces étaient assez intéressantes, puisque en termes de restes squelettiques sur le site, on n'avait pas de restes de carnivores comme ceci. On a également trouvé une trace probablement de ruminants. Alors c'est toujours difficile de préciser un petit peu l'espèce en question, puisque parfois les traces sont assez mal conservées et on ne peut pas aller dans la précision en tout cas sur les espèces.
Un auroch ?
On en serait plutôt sur du cervidé que sur de l'auroch. Et on a également trouvé probablement des traces de blaireaux et peut-être également des traces de rongeurs, bien que certaines traces sont encore en cours d'étude.
Alors, qu'est-ce que nous apprennent ces pas sur la locomotion de Néandertal ? Est-ce que ça peut nous apporter quelque chose, d'ailleurs ?
C'était l'une des questions, justement, dans le cadre de mon doctorat, c'était d'intégrer un petit peu la connaissance de ces empreintes de pied à la connaissance de la locomotion des Néandertaliens. En réalité, on peut notamment utiliser les quelques pistes que nous avons recensées de façon à intégrer certaines variables très simples, comme la longueur entre deux pas ou l'angle que fait le pied par rapport à l'axe de la démarche, de façon à analyser la marche des Néandertaliens. C'est ce que je suis en train de faire. Afin de simuler la marche des Néandertaliens, c'est une des variables qu'on peut utiliser. Donc on a vraiment une complémentarité du message des empreintes, puisqu'elles nous informent non seulement sur la composition et la taille du groupe, mais elles pourront également permettre dans les futures analyses de nous enseigner et de nous donner plus d'informations sur les comportements locomoteurs et les potentielles différences entre la marche de l'Homo sapiens et la marche néandertalienne, même si ces deux espèces avaient probablement des comportements locomoteurs très proches.
Alors, sans révéler, bien sûr, les résultats de votre thèse que vous allez soutenir d'ici quelques jours, Néandertal marche-t-il comme nous ?
Oui, on a une démarche qui était vraiment très similaire à l'homme de Néandertal. Entre l'homme de Néandertal et l'Homo sapiens, on a des démarches extrêmement similaires. On est très très loin des premières représentations du Néandertalien au début du XXe siècle. On avait une représentation très simiesque, avec une posture fléchie. Là, on a quand même une bipédie érigée qui est extrêmement similaire à celle de l'Homo sapiens.
Dominique Cliquet, peut-on surtout évaluer la structure sociale, la composition de ce groupe ou de ces groupes néandertaliens qui se sont implantés donc sur le site du Rosel en Normandie ?
Alors, on a la possibilité effectivement d'avoir des éléments, notamment Jérémy a travaillé sur le nombre minimum d'individus qu'on était susceptible d'avoir sur le site, et ce qui paraît actuellement le plus probable à partir de l'étude des empreintes, bon, il est bien évident que le corpus s'étant élargi, on aura peut-être une légère variation, on arrive à environ 10 à 13 individus d'attestés, sachant que sur ce ce corpus, on a quand même une majorité d'empreintes d'enfants et d'adolescents. Donc on a peut-être une proportion d'adultes un petit peu sous-estimée par rapport à ce qui était sur le vraiment réellement présent sur le site. Maintenant, ce qu'il faut essayer de voir, c'est si on a une spécialisation du travail à partir de la répartition des empreintes. Bon, malheureusement, sur les aires d'activité technique, on a fait, et sur les aires d'évolution des enfants et des ados, on a fait pas mal de prélèvements pour faire des analyses de protéines, voir si on avait la possibilité d'en tirer quelque chose. On n'a pas eu de résultats bien probants, ni au niveau chimique, ce qui est quand même un petit peu dommage, ne serait-ce que pour voir si on n'avait pas des traitements de végétaux dans ces secteurs qui n'étaient pas dédiés au travail de la viande.
Alors, croisons ces données, 12-15 personnes, avec le statut de ce site, une petite halte, un campement temporaire, un site central majeur?
Alors, je pense que la partie qui a été investiguée correspond à des ateliers de travaux de boucherie, ça c'est certain. Nous avons encore une partie du site à investiguer latéralement, où nous aurons peut-être les niveaux d'habitat. Et surtout, ce qui est important de voir, c'est qu'on a récurrence d'occupation sur le site. En fait, on a la possibilité de mettre en évidence des populations qui reviennent périodiquement sur le site, sans qu'on puisse en appréhender le laps de temps entre les occupations.
Et doit-on considérer que 12-15 personnes constituaient la majorité des groupes néandertaliens évoluant sur le territoire?
Alors, sur nos estimations que nous avons faites, on a estimé qu'on avait entre 10 et 13 individus sur le niveau d'occupation qui a livré le plus d'empreintes. On a essayé de comparer cela avec les autres tailles de groupes néandertaliens connus. On s'est assez vite rendu compte qu'il était très difficile d'estimer la taille des groupes néandertaliens, puisque d'une part, si vous étudiez par exemple des restes squelettiques, il est toujours difficile de savoir si ces restes font partie d'un même groupe ou si ils se sont déposés ou sont morts en même temps. Et on arrive quand même à faire des estimations, par exemple à partir des artefacts archéologiques, notamment en regardant la surface, la superficie des sites, et en faisant des analogies avec les populations de chasseurs-cueilleurs actuels et les densités de ces populations-là. Et là, quand on regarde un petit peu les estimations faites à partir de ces superficies, on arrive à des groupes relativement faibles, 10 à 30 individus, donc on est vraiment dans cet intervalle de variation.
Jérémy Duvaux, Dominique Cliquet, merci beaucoup et bravo pour cette publication. Et bien sûr, bon courage pour cette thèse. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Inès De Bruyne, et avec bien sûr la collaboration de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de franceculture.fr ou retrouver plus de 300 archives sur le site inra.fr. La semaine prochaine, nous évoquerons les Néandertaliens, mais un autre groupe humain plus énigmatique, les Denisoviens, et notamment au travers de leur génétique.